Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Joël, diffusé lundi 10 juin 2013 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mardi, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission puisqu'elle est préenregistrée, mais vos courriers seront toujours les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, cette émission, comme vous venez de l'entendre, est donc préenregistrée. Je suis au grand regret de ne pouvoir lire vos messages, et quand je dis que je suis au grand regret, notre chère assistante Joël a encore un regret plus grand que le mien, puisque c'est sa fonction essentielle. Et donc, nous allons, pour cette émission préenregistrée, devoir nous passer des messages, mais bien entendu, vos lettres seront les bienvenues, comme on vient de vous le dire. Nous aurons à parler, dans cette émission qui est donc diffusée, en première diffusion, au lendemain de la fête de la Courtoisie du 9 juin 2013, de l'actualité de Radio Courtoisie. Nous ferons le point, évidemment, sur la fête, mais surtout ce qui se passe dans le monde de la radio, et surtout ce qui se passe dans le monde de la culture, auquel contribue votre chère radio, Radio Courtoisie. Et l'une de ces missions, vous le savez, puisque c'est une radio culturelle associative, c'est de parler de l'histoire et de s'intéresser aux développements les plus récents qui concernent l'histoire en général et notre histoire en particulier. Et notre histoire en particulier touche à l'actualité d'une certaine manière, parce que le lien entre le christianisme et l'Occident, le christianisme et l'Europe, est un lien intime. Et on peut revenir sur les origines de ce lien intime grâce au dernier numéro du Figaro Histoire, numéro de juin-juillet 2013, qui est donc maintenant d'ores et déjà dans les kiosques à journaux. Le Figaro Histoire, 313, comment le monde est devenu chrétien. 313, c'est l'édit de Milan, dont nous allons voir que ce n'est pas un édit qui n'a pas été pris à Milan. Mais à part ça, c'est quand même un événement fondateur du monde occidental, de la civilisation chrétienne. Donc nous allons parler de Constantin et de la christianisation de l'Europe, dont nous sommes les héritiers. Et quand je dis que nous sommes les héritiers, le débat récent et le combat récent à propos du mariage homosexuel nous montrent combien cette question est au premier plan de l'actualité. Mais là, nous allons revenir aux origines et donc nous intéresser à la manière dont l'antiquité païenne est progressivement devenue chrétienne. Alors pour cela, j'ai invité le professeur Alexandre Grandazzi, qui est professeur des universités, alors qui est un professeur latiniste, romaniste, de Paris 4 Sorbonne.
Oui.
Et donc qui parle latin aussi bien que français.
Je rêve en latin aussi.
Vous rêvez en latin. Ce qui est quand même aujourd'hui, vous le savez, un privilège des plus rares.
Oui, mais qui est accessible à tous ceux qui...
Qui veulent se donner la peine.
Qui veulent, voilà, apprendre.
Alors parlez bien fort pour que les auditeurs vous entendent bien.
Qui veulent apprendre cette langue qui a beaucoup de vertus, notamment pour les jeunes et... je voudrais dire combien l'existence et la persistance d'un enseignement du latin en collège et en lycée me paraît un fait culturel fondamental et qu'il faut absolument maintenir.
Professeur Grandazzi, je pense qu'ici, autour de cette table, personne ne va vous contredire. Et je crois que Michel de Gégère, que je n'ai pas encore nommé, mais qui va l'être, qui l'est maintenant, ne sera certainement d'accord avec vous. Peut-être que ça va donner lieu d'ailleurs à un numéro du Figaro hors série ou du Figaro Histoire, je ne sais pas. L'autre invité, c'est Michel de Gégère, journaliste, écrivain, directeur des hors série du Figaro et du Figaro Histoire. Alors je l'invite régulièrement quand je peux, avec toujours le même bonheur, pour ses productions qui sont autant de chefs-d'œuvre. Enfin, qui sont souvent des chefs-d'œuvre, pas toujours, mais qui sont toujours bons, toujours bonnes, mais parfois qui atteignent le chef-d'œuvre. Et je cite toujours le numéro sur Giotto, par exemple, et ce n'est pas le seul, qui est un numéro absolument exceptionnel du Figaro hors-série. Alors, je le fais rougir régulièrement en célébrant son talent. Il a fait le Figaro hors-série. C'est quoi? C'est tous les deux mois, le Figaro hors-série?
Un petit peu plus, on en publie 8 par an.
Ouais. Le Figaro histoire, le Figaro voyage maintenant.
Voyageur.
Voilà, Figaro
c'est
voyageur.
Okay, voyageur.
Comme le pigeon du même nom.
Exactement.
Le Figaro voyageur, le dernier était consacré à Amsterdam, me semble-t-il. Hein. Enfin, le premier.
Le premier. J'espère n'est pas le dernier. Pour l'instant.
Le plus récent est le premier. Ouais. Alors, donc, le dernier numéro du Figaro histoire, je répète, c'est 313, comment le monde est devenu chrétien, avec la collaboration d'éminents latinistes et romanistes, je ne sais pas ce qu'il faut dire.
On dit latiniste ou historien de Rome, et le mot romaniste est, du point de vue universitaire, souvent réservé aux spécialistes des langues dites
langue romanes.
Romane,
ah oui, d'accord, ouais. D'accord, donc ce n'est pas tout à fait pareil, c'est dans les linguistes alors.
Voilà, exactement.
Entendu. Alors, je voudrais commencer donc par le commencement, c'est-à-dire l'Édit de Milan. L'Édit de Milan, qu'est-ce que c'est, professeur Grandazzi, expliquez-nous ce que représente l'Édit de Milan pour que les choses soient extrêmement précises. Vous trouverez bien sûr toutes les explications dans le Figaro Histoire. Professeur Grandazzi.
L'Édit de Milan n'est pas un édit, comme vous l'avez dit très justement, et il ne date pas de Milan. En réalité, il est l'application et la décision d'appliquer un édit antérieur qui, lui, a été pris par l'empereur Galère. Galère meurt en 311, 2 ans auparavant, et il est l'auteur d'une persécution très féroce contre les chrétiens, mais dans les derniers mois de son existence, il est atteint par un cancer généralisé, cancer de la face, semble-t-il, et devant l'inefficacité de ses anciens dieux, il décide visiblement d'arrêter la persécution contre les chrétiens et il prend un édit où il ordonne qu'on arrête la persécution. Il meurt tout de suite après, mais Constantin et Licinius, de janvier à mars 313, lorsqu'ils se retrouvent à Milan, vont décider d'appliquer la mesure de clémence ou de tolérance prise par Galère 2 ans auparavant. Donc, à Milan, ce n'est pas un édit qu'ils prennent et, d'une certaine manière, la décision, elle a déjà été prise avant Milan. Mais ce qui fait la force, et c'est la raison pour laquelle il est tout à fait légitime de célébrer la rencontre de Milan, ce qui fait la force de leur décision, c'est qu'elle est commune. Constantin est l'homme fort de l'Empire d'Occident et qu'elle va préluder à l'arrêt de toute persécution contre les chrétiens.
Alors il faut dire peut-être à propos de l'Édit de Milan ce n'est pas un édit qui fait du christianisme la religion officielle, c'est un édit de tolérance.
Ce n'est pas du tout un édit d'officialisation d'une religion qui, à ce moment-là, ne concerne que 10% d'après les estimations les plus fines faites actuellement, et peut-être même moins de la population. C'est un édit c'est une décision commune qui est affichée à Thessalonique, affichée à Constantinople, à Nicomédie. C'est une décision commune qui permet aux chrétiens, mais aussi bien entendu à ceux qui ne le sont pas, de pratiquer leur religion. Il se trouve que nous connaissons bien le texte des accords de Milan, puisque l'écrivain Lactance les a transcrits.
Eusèbe de Césarée aussi, me semble-t-il.
Et Eusèbe de Césarée aussi. Donc nous en connaissons deux versions, légèrement différentes.
Je suis Doctus comme Libro. Hein.
Exactement.
Doctus cum Libro,
Figaro. Voilà. Et très justement, le numéro du Figaro Histoire reproduit l'essentiel du texte de Lactance. Et on y voit bien que il y est donné, je lis ce que nous avons sous les yeux, il y est donné la possibilité aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. Vous voyez, donc, une certaine prudence, hein, c'est le pari de Pascal version minorée, c'est-à-dire que quelle que soit la divinité, peut-être est-elle chrétienne, peut-être ne l'est-elle pas, mais on a l'impression que les deux co-régents de l'Empire mettent toutes les chances de leur côté en cessant la persécution contre les chrétiens.
Alors, vous dites la divinité, enfin, il est dit dans ce texte, la divinité. Est-ce à dire que, d'ores et déjà, en 313, donc, puisque nous fêtons le 1700e anniversaire de ce prétendu édit, est-ce à dire que le monothéisme, l'affirmation d'un Dieu unique est dans les esprits de tout le monde, païen ou chrétien, et que le polythéisme est renvoyé à la superstition?
De façon implicite, par la lettre de Milan, si on ne veut pas l'appeler Édit de Milan, oui. Ça ne veut pas dire que dans la population, le polythéisme ne reste pas extrêmement vivace.
Je parle de l'autorité.
Dans l'Édit de Milan, la liberté qui est proclamée par l'Édit de Milan, c'est une liberté du monothéisme. Beaucoup plus qu'une liberté religieuse totale. Parce que, alors, ce qui est difficile, c'est que il y a la version de Zeb de Césarée, il y a la version de Lactance, elles diffèrent sur des nuances. Et donc, il est difficile de tirer des conséquences décisives de ces nuances où on n'est pas absolument sûr du texte même de l'édit. Mais lorsqu'on lit ligne à ligne, notamment la version de Zeb de Césarée, on a vraiment l'impression que c'est une liberté du monothéisme.
Alors moi, je vais lire la version de Michel de Gégère dans le Figaro Histoire. « Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis heureusement à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature à assurer, selon nous, le bien de la majorité, celles sur lesquelles repose le respect de la divinité, au singulier, hein, de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. » Voilà, ça continue dans le
si même
voulez, genre.
Si on continue un petit peu,
inspiration.
Il dit que nous avons dû croire prendre la décision de ne refuser cette possibilité à quiconque qui ait attaché son âme, à la religion des chrétiens ou à celle qu'il croit lui convenir le mieux, afin que la divinité suprême, à qui nous rendons un hommage spontané, puisse nous témoigner en toute
chose. Donc c'est bien du monothéisme, la divinité suprême.
En réalité, à cette époque, le polythéisme païen lui-même est caractérisé par une forte tendance, non pas au monothéisme, mais à ce que les spécialistes appellent l'énothéisme. C'est-à-dire que depuis déjà, le IIIe siècle, il y a une tendance à, y compris chez les païens, à centrer leur vie religieuse sur une divinité. Ça peut être, alors cela a pu être le soleil avec Aurélien, ça peut être Apollon, mais il y a déjà des tendances monothéistes dans le paganisme.
Alors le soleil, je crois que le soleil deviendra la divinité suprême avec Julien l'Apostat pendant la brève carrière comme empereur de cet empereur.
Constantin, oui bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais Constantin lui-même dans sa jeunesse semble avoir eu un culte particulier, une dévotion particulière vis-à-vis du soleil.
Alors il n'est pas indifférent de noter à ce propos que la fête de Noël où les chrétiens célèbrent la naissance du Christ a été fixée de manière sans doute arbitraire à la fête de la naissance du soleil, c'est-à-dire du solstice d'hiver.
Pas de manière arbitraire, il est vraisemblable qu'il y a une superposition très volontaire faite pour éliminer les résidus de...
Bien sûr, c'est ce que je veux dire. Non, mais ça ne veut pas dire que Jésus est vraiment né le 25 décembre, on n'en sait trop rien. Quoi.
Ça, je pense qu'on ne le sait pas, effectivement.
Bien. Donc, un édit de tolérance, alors déjà, donc, nous continuerons, Michel de Gégère, avec votre permission, à parler de l'édit de Milan, comme vous le faites dans votre Figaro Histoire. Sachant que ce n'est pas un édit à proprement parler, c'est en fait un compte-rendu de réunion, en quelque sorte, que deuxièmement, il n'est pas de Constantin tout seul, mais de Constantin et Licinius, et troisièmement, qu'en fait, ce compte-rendu de décision, ce procès-verbal de décision, qui fait suite à une rencontre entre Licinius et Constantin, je crois que c'était à Rome. Non, à Milan.
Non, à Milan. Ils sont restés 3 mois à Milan, de janvier à mars.
Ils se sont retrouvés parce que Constantin donnait sa sœur en mariage à Licinius pour consacrer leur alliance. Et donc, ils ont discuté de toutes choses pour le partage, au fond, de l'Empire.
Ça,
et la question de la liberté religieuse et la question du sort des chrétiens étaient centrales. Alors, quand vous dites il n'est pas de Constantin, il est de Constantin et Licinius, c'est vrai et faux à la fois. C'est vrai, puisque la lettre est signée des deux empereurs, Constantin est quand même en situation tout à fait dominante. Hein. Il vient de liquider l'usurpation de Maxence qui tenait Rome. Il vient de prendre, de battre l'empereur ou l'usurpateur qui tenait Rome, alors que Rome était dans la zone d'influence qui aurait dû être celle de Licinius. Licinius n'a pas osé ou pas pu attaquer Maxence. Constantin l'a fait à sa place, l'a fait avec des forces. Il était tout à fait inférieur en nombre. Il a obtenu une victoire tout à fait surprenante. Et lorsqu'il vient à la rencontre de Licinius, il est tout de même en position dominante vis-à-vis de Licinius. Deuxièmement, on sait que la préoccupation d'accorder la liberté aux chrétiens vient de Constantin, que Constantin déjà était d'une famille, son père, donc Constance Chlore, qui avait été César puis Auguste, la partie occidentale de l'Empire, n'avait pas appliqué les édits de persécution comme il aurait dû le faire en toute légalité, s'était montré plutôt favorable aux chrétiens. On sait que Constantin a grandi dans une ambiance qui est plutôt favorable aux chrétiens. Après, il y a beaucoup de trous dans sa biographie, on y viendra. Mais par exemple, Robert Turcan, éminent historien de l'Institut, qui, dans notre numéro du Figaro Histoire, fait le portrait de Constantin, pense, lui, que Constantin est chrétien depuis l'enfance. Alors, d'autres spécialistes, par exemple Pierre Maraval, biographe de Constantin tout à fait éminent, qui collabore aussi, fait le dossier central de notre numéro, lui pense le contraire. Là, on est dans le débat des historiens. Mais enfin, je crois qu'on peut s'entendre sur le fait que, tout de même, ce que l'on appelle l'édit de Milan vient de l'initiative de Constantin et pas de la rencontre de deux volontés qui va...
Peut-être, mais l'ironie de l'histoire, quand même, c'est que nous ne connaissons cet édit que par un texte de Licinius, si je ne m'abuse, si j'ai bien lu le Figaro Histoire.
Oui, nous connaissons
c'est la version de Licinius.
Nous connaissons la version qu'a fait afficher effectivement Licinius dans plusieurs villes de la partie de l'Empire qui était sous sa responsabilité.
Alors je précise pour les auditeurs de radio
pour les raisons que nous venons de dire, c'est-à-dire que c'est parce que c'est en Orient territoire que Licinius va finalement contrôler que les persécutions.
Dominer.
Dominer. Si
contrôler, c'est un anglicisme.
Bon, alors dominer, si vous voulez.
Mériterait de mettre un dollar dans le cochon.
Si vous me permettez de terminer, c'est là que les persécutions avaient continué, alors que justement dans la partie occidentale, du fait de la tolérance de Constance Chlore, ces persécutions étaient beaucoup moins fortes, voire inexistantes. Donc il est normal que ça soit dans cette partie orientale que l'édit était affiché était ressenti comme une nouveauté.
Alors, je précise pour les auditeurs de Radio Courtoisie que, comme c'est un édit de tolérance, le professeur Grandazzi tolère que nous prononcions le latin à notre manière. Lui évidemment, prononce de la façon correcte, c'est-à-dire la prononciation dite restituée, je crois.
C'est cela,
Licinius.
Oui.
Alors moi, excusez-moi, professeur, mais je le dis pour les auditeurs de Radio Courtoisie, mais j'ai prononcé le latin de 4 manières différentes. J'ai commencé à entendre mon père qui parlait latin à l'ancienne façon, c'est-à-dire à la française, templum, pour le temple, pas templum. Ensuite, j'ai appris le latin dans les écoles catholiques à l'italienne, cicero, pour Cicéron. Puis, j'ai appris le latin dans les écoles laïques à Dakar, où c'était Cicero. Et enfin, j'ai appris le latin en prononciation restituée, cicero. Donc, et puis je trouve que Licinius est plus sympathique quand on le dit à la française. Donc vous êtes très tolérant, vous nous permettrez de prononcer un peu comme nous voulons le latin, qui est un peu notre langue. D'ailleurs, nous continuons à parler latin sous une forme légèrement transformée, qui s'appelle le français.
Le français n'est que du latin abattardi, finalement.
Abattardi, je vous en prie. Abattardi, incertainement, mais rénové ensuite. Alors là, c'est un débat qui nous sort. Alors, l'édit de tolérance.
C'est une plaisanterie, bien sûr.
Édit de tolérance, l'édit de Milan. Donc un événement considérable, 313 à Milan, donc, dans le nord de l'Italie. Et 1700 ans après, nous en comprenons l'importance. Nous en comprenons l'importance. Peut-être faut-il, puisqu'il est acquis donc que le personnage principal, c'est Constantin, bien que Constantin, adjoint de Licinius, ait repris une décision du prédécesseur Galère, l'empereur Galère.
Alors, sur ce point aussi, si vous me permettez, je voudrais faire une nuance. Il est vrai que l'édit de Milan est une mise en application de l'édit de tolérance de Galère, mais il a une portée supérieure. Et je pense que ça serait réduire le texte et l'événement à de considérer que c'est uniquement la mise en œuvre de l'édit de tolérance de Galère. Parce que l'édit de tolérance de Galère est un édit consenti par Galère sur son lit de mort, comme le professeur Grandazzi le disait il y a un instant, et qui en gros constate que la persécution ne marche pas, puisque il faut comprendre que les anciens ont une vision très utilitaire de la religion. La bonne religion, c'est la religion qui donne la prospérité sur cette terre, qui donne des victoires aux généraux, qui donne la prospérité au peuple, qui donne de bonnes récoltes, qui évite les tempêtes. C'est à ça que sert la religion. Et Galère, constatant qu'il va de malheur en malheur, que les invasions se poursuivent, que lui-même est frappé d'une maladie effroyable, etc., se rend compte que finalement, le dieu des chrétiens n'est peut-être pas si inefficace que ça, et sur son lit de mort, donne un édit de tolérance, disant, nous avons vu que, comme malgré nos persécutions, les chrétiens continuent à refuser d'honorer les dieux, que tout cela se traduit par une situation catastrophique pour l'Empire, nous avons décidé de permettre à ces égarés, à ces malheureux de pratiquer leur culte pour qu'au moins ils prient Dieu pour le salut, ils prient leur Dieu pour le salut de l'Empire et pour le nôtre. C'est ça la logique de l'édit de Galère. L'édit de Milan va très au-delà, puisque je vous disais que nous avons deux versions. Il y a la version de Lactance que vous lisiez il y a un instant et la version d'Eusèbe de Césarée. Dans la version d'Eusèbe de Césarée, on lit « Il nous a paru que c'était un système très bon et très raisonnable de ne refuser à aucun de nos sujets, qu'il soit chrétien ou qu'il appartienne à un autre culte, le droit de suivre la religion qui lui convient le mieux. Il est digne du siècle où nous vivons. Il convient à la tranquillité dont jouit l'Empire que la liberté soit complète pour tous nos sujets d'adorer le Dieu qu'ils ont choisi et qu'aucun culte ne soit privé des honneurs qui lui sont dus. » Donc c'est une formule beaucoup plus générale. Si vous voulez, l'édit de Galère, c'est un édit qui est consenti, qui est octroyé comme un pis-aller parce que la persécution n'a pas marché. L'édit de Milan, c'est quand même un édit qui proclame le principe de la liberté de religion à l'intérieur de l'Empire romain. Ce qui est quand même une nouveauté considérable. C'est-à-dire qu'on est dans une civilisation où le culte a toujours... Même s'il y avait une grande tolérance pour ce qui concerne les convictions religieuses, le culte était lié à la survie de l'État. Et il y avait une confusion du spirituel et du temporel à cet égard, puisque le but essentiel de la religion était de préserver l'État des malheurs que les puissances invisibles pouvaient faire fondre sur lui. Donc le fait de proclamer une liberté générale de culte est quand même un événement extrêmement nouveau qui, je pense, est spécifique à l'édit de Milan et fait son originalité par rapport à l'édit de Galère. Et d'ailleurs, il y a une autre originalité, c'est la restitution des églises. L'édit de Galère n'avait pas prévu cela, alors que l'édit de Milan prévoit la restitution des églises aux chrétiens, la restitution des biens d'église à l'église qui ne se dit pas encore tout à fait catholique, mais qui l'est déjà.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit Michel de Jaeger, journaliste.
On prononce la française.
De Jaeger.
De Jaeger.
Journaliste, écrivain, directeur des hors-séries du Figaro et du Figaro Histoire, et le professeur Alexandre Grandazzi, professeur des universités à Paris 4.
Sorbonne.
Paris-Sorbonne, comment on dit.
Paris-Sorbonne, oui, bien sûr. Ouais. J'ajoute que pour Michel de Jaeger, c'est la prononciation que vous acceptez, que vous tolérez, parce que vous êtes vous aussi très tolérant, mais que si c'était la prononciation flamande, ce serait très différent. Hein. Vous avez un nom flamand, Michel de Jaeger, et ça devrait être quelque chose comme de Jagre, non?
Oui, en Flandre, c'est comme ça qu'on prononce. Mais enfin, mes ancêtres...
ont renoncé aux Flamands.
Ont renoncé à la langue flamande, qui n'était pas probablement... qui n'ont pas considéré comme étant la plus belle d'Europe.
Alors, et vous connaissez la blague que font les Wallons à propos de la langue flamande. Ils disent le flamand, ce n'est pas une langue, c'est une affection de la gorge.
Bon. Et le thème de...
Pardon, excusez-moi.
Bon. Et Constantin et la christianisation de l'Europe.
Alors, je vais quand même faire un petit excursus avec la permission de mes invités, donc Michel de Gégère et Alexandre Grandazi. C'est que je crois qu'il ne faut quand même pas, Michel de Gégère, exagérer le contraste entre la religion chrétienne et ce qui l'a précédé sur le plan de l'utilitarisme. Alors, pour l'anecdote, moi, je vous signale que. Je me rappelle autrefois quand j'étais petit, on priait Sainte Rita, patronne des causes désespérées, pour le succès aux examens du cousin, qui avait du mal à passer ses examens. On mettait des œufs à Sainte-Claire chez les Clarisses pour avoir beau temps le jour du mariage, etc., etc. Et d'ailleurs, pour revenir à un sujet plus noble, je vous signale que Constantin, lorsqu'il a emporté la bataille du pont
Milvius
a vu ce signe
Oxygno Vinces, par ce signe par ce tu signe vaincras.
Oxygno Vinces, par ce signe tu vaincras. Alors en grec, vous parlez grec aussi certainement.
Oui, enfin là c'était du latin.
Non, mais j'ai lu dans le Figaro Histoire qu'il l'aurait vu en grec son
C'est raconté par Eusèbe, bon. Donc c'est raconté dans un texte grec, écrit en grec.
L'autre exemple majeur qui nous concerne d'utilitarisme, qui montre que, d'ailleurs c'est grâce à cela que nous sommes devenus chrétiens, d'abord par la conversion, enfin, oui, Constantin, la victoire de Constantin, Clovis, qui s'est converti pour gagner.
Oui, mais tout ça... ce sont des preuves tautologiques. C'est-à-dire que d'une part.
Ce sont les meilleures preuves.
Oui. D'une part, la conversion de Constantin, qui certainement, effectivement, est très probablement due à sa victoire. C'est-à-dire qu'en bon païen.
Pomilius.
Imprégné par des siècles et des millénaires de paganisme, cette victoire inattendue du Pomilius, puisqu'il ne devait pas gagner, parce qu'encore une fois, il était tout à fait inférieur en nombre, il y avait plusieurs armées. Parce que nous sommes au milieu de la crise de la tétrarchie, il y a toutes sortes d'empereurs, d'usurpations. Et dans les années qui ont précédé, d'autres armées, notamment celles de Galère, ont essayé de prendre Rome et s'y sont heurtées. Et donc, lorsque Constantin arrive de Gaule avec une armée fatiguée, inférieure en nombre, devant Rome, tout le monde pense qu'il a peu de chances de gagner. Et la victoire du Pomilius apparaît aux contemporains comme une victoire inespérée. Et donc, Constantin, en bon païen, pense que c'est le dieu des chrétiens qui lui a donné cette victoire. Ça ne veut pas dire que le christianisme résonne comme le paganisme, ça veut dire que Constantin se convertit avec un raisonnement païen. Et lorsque vous dites que Clovis fait la même chose, mais Clovis, si elle est authentique, l'affaire de Tolbiac, si tu me donnes la victoire, etc., est une réputation mimétique de l'aventure de Constantin.
Bon, écoutez, ça nous emmène un peu loin, parce que vous êtes janséniste ou quelque chose comme ça, puisque vous ne voulez pas que la prière soit efficace et qu'elle puisse obtenir quelque chose en ce bas monde.
Je crois que l'utilitarisme n'est pas l'essence du christianisme.
Et vous êtes quasiment calviniste. Revenons à...
Non, au contraire, les calvinistes pensent que Dieu leur envoie la prospérité.
Je voudrais...
Attendez, je fais une parenthèse théologique, c'est que vous êtes complètement dans l'erreur, c'est la théorie de la probation qui... C'est un signe. En fait, ça n'a rien... le succès dans les affaires est un signe du fait qu'on appartient à la catégorie des élus, voilà. Que Dieu, par prédestination, a décidé... Mais c'est un signe, c'est la probation, ça n'est pas celui par les œuvres.
En réalité, je crois que...
En réalité,
je crois que cette espèce de vision utilitaire de la religion est partagée. Elle est aussi bien du côté païen que du côté chrétien à cette époque-là. Je voudrais revenir un instant sur la bataille du pont Milvius, dont il vient d'être dit qu'elle devait être une victoire de Maxence.
Ouais.
Voilà. Je n'en suis pas si sûr dans la mesure où l'armée de Constantin était
c'est
peut-être...
En quelle année, pardon ?
C'est en octobre 312.
Juste avant l'édit de Milan, donc.
Voilà. Constantin, en réalité, est un chef de guerre très expérimenté, qui est reconnu comme excellent par ses contemporains et ses égaux. Son armée, peut-être moins nombreuse, est beaucoup plus aguerrie que celle de Maxence. Elle comprend notamment beaucoup de contingents barbares. Il n'a pas cessé de se battre les 10 ans qui ont précédé et d'acquérir une expérience qui fait de lui un grand général. Et donc, on a comparé cette descente sur l'Italie, à la descente, la campagne d'Italie du jeune Bonaparte en 1796. Et effectivement, lorsqu'il arrive devant Rome, le simple fait de son arrivée dans des délais aussi courts jette une certaine désorganisation, une certaine terreur dans le camp d'en face.
Le camp de l'empereur.
Oui, Maxence lui-même n'est pas du tout un homme de guerre et il commet l'erreur de sortir de Rome. Alors, on l'accuse toujours d'avoir mal calculé et d'avoir fait l'erreur de sortir de Rome. Il faut se rendre compte, parce qu'on dit, regardez, les murs d'Aurélien aurait dû rester à l'intérieur, ça l'aurait protégé. Mais on oublie que les murs d'Aurélien ne sont pas encore ce qu'ils sont, ne sont pas en 312 ce qu'ils seront et tels que nous les voyons. C'est-à-dire que le mur la muraille de Rome en 312, elle ne fait pas 15 mètres de haut comme elle le fera au 5e siècle, elle en fait à peine 10. Elle est dépourvue de fossés, dépourvue, semble-t-il, de toute une série de perfectionnements techniques, n'a pas de chambre dans les tours, par exemple, pour y placer des balistes. Et donc, Maxence... Des catapultes. Ouais. Donc, Maxence n'a peut-être pas tort de ne pas avoir beaucoup de confiance dans cette muraille, qui d'abord a des trous, est mal entretenue, et ne présente pas toute sécurité par rapport à un adversaire, encore une fois, très aguerri, très expérimenté, et qui a une espèce d'impetus, d'élan. Hein. Il arrive là... de la Gaule, de la Germanie, et il a renversé déjà bien des obstacles sur son passage. Donc la bataille du Pont Milvius, d'une certaine manière, bon, son issue n'était pas sans doute écrite, mais il n'est pas dit qu'elle aurait dû être facilement une victoire pour Maxence, compte tenu de la qualité militaire de Constantin de son instrument militaire.
Il se trouve tout de même que dans les années précédentes, il y a eu une campagne de Galère, une campagne de Sévère, donc deux empereurs, dont Galère, empereur très expérimenté, ayant mené des campagnes contre les Perses, etc., et qui se sont arrêtés devant les murailles de Rome et qui, trouvant en face d'eux Rome protégée par le mur d'Aurélien, ont fait demi-tour. Donc c'est ça, en tout cas, qui a expliqué la surprise des contemporains devant le fait que Maxence sorte des murailles.
Ne polémiquons pas plus longtemps sur la bataille du Pont Milvius.
Du point de vue de la bataille du Pont Milvius et du point de vue de Constantin, qui est notre sujet, je crois que le problème, c'est évidemment, enfin, la question, c'est celle de sa conversion. Il y a finalement, on peut le voir, trois hypothèses. Dans ce temps d'inquiétude, hein, il faut, je crois, on aurait peut-être pu le dire en commençant, c'est ce début du IVe siècle est une période où l'Empire est tout de même se sent menacé par l'extérieur, de l'intérieur. C'est une époque difficile. Et je crois qu'il y a trois possibilités qui se posent pour la conversion de Constantin. Était-il chrétien depuis l'enfance ? Nous avons vu que cette hypothèse existe. S'est-il converti au moment même de la bataille, un peu avant, un peu après, ou s'est-il converti bien longtemps après, il a été baptisé sur son lit de mort, et nous aurions dans ce cas affaire à une construction intellectuelle de la part des premiers historiens du christianisme, que sont précisément Lactance et Eusèbe de Césarée. Alors ce débat a longtemps occupé la science, mais il a reçu, je crois que c'est en 1957, donc... à la fois il y a longtemps et en même temps il n'y a pas trop longtemps, une réponse décisive lorsqu'on a pu identifier une monnaie émise par Constantin en 315, donc 3 ans après la bataille, 3 ans seulement après la bataille.
La bataille du Pont Milvius.
Voilà, après la bataille du Pont Milvius. Et sur cette monnaie, l'empereur est représenté avec un casque qui porte précisément le chrisme.
Alors le chrisme, C-H-R-I-S-M-E.
C'est-à-dire, c'est ce signe inventé, semble-t-il, par Constantin, qui avait de grands dons, vous voyez, même pour le dessin, et qui est une espèce de symbole fait des lettres du nom du Christ, hein, donc le qui et le ro, le K et le R. Et ce signe figure, semble-t-il, tout à fait clairement, sur une monnaie dont on ne connaît que 2 exemplaires dans le monde, donc on peut imaginer l'intensité de la discussion érudite, mais maintenant le débat semble tranché. En 315 au moins, Constantin s'avoue officiellement chrétien. Donc le laps de temps entre sa conversion, si on ne retient pas l'hypothèse d'un christianisme dès l'enfance, c'est ou bien au moment de la bataille, ou bien après, en fonction, comme on le disait, c'est peut-être la solution d'ailleurs, en fonction du résultat de cette bataille. Quant au baptême tardif, en réalité, c'est une habitude de ce temps et on ne peut pas en tirer argument.
Alors attendez, c'est un peu bizarre parce que je connaissais le baptême tardif, qu'on appelait le consolamentum pour les hérétiques cathares. Pour des raisons qu'on peut expliquer mais qui nous feraient sortir du sujet. Pourquoi les chrétiens à l'époque de Constantin se faisaient-ils baptiser tardivement ?
Mais le problème de Constantin, c'est qu'il a la farouche...
Non, mais je parle pas de Constantin spécialement, en général, les chrétiens. Pourquoi dites-vous que l'usage était de se faire baptiser tardivement ?
Je dis pas que c'était l'usage pour tout le monde, mais pour les hautes personnalités qui allaient vers la conversion, il semble, d'autres exemples montrent qu'on a des baptêmes in extremis.
Peut-être parce que c'était une manière d'effacer les péchés qui est nombreux qu'ils avaient commis pendant
Exactement.
Leur vie.
Exactement. Et s'ajoute à cela, pour Constantin, le fait quand même cardinal qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a la farouche volonté de régner sur un empire réunifié dont les 90% et sans doute plus de la population n'est pas
donc
chrétienne.
Donc il n'a pas intérêt à être officiellement chrétien.
Donc son choix d'être chrétien, c'est un choix personnel qui a dû sembler peut-être un peu bizarre à ses sujets, ses troupes, mais qui le regardaient. Après tout, que Constantin choisisse d'honorer particulièrement le Dieu des chrétiens, ça pouvait être comme lorsque Auguste avait choisi de porter sa dévotion sur l'Apollon d'Axium et lui avait construit un magnifique temple sur le Palatin. Il était de tradition dans l'Empire.
D'Axium ou d'Actium ?
D'Actium, alors. Merci.
Excusez-moi de cette taquinerie.
Vous êtes plus royaliste que le roi, voyez.
Donc, je l'attends au tournant.
Il y a dans l'Empire romain l'habitude pour les empereurs de manifester une espèce de dévotion personnelle, et le choix peut se porter tantôt sur, je vous dis, l'Apollon d'Actium, tantôt sur le Soleil, c'était Aurélien, tantôt sur Jupiter Victor, par exemple, et Héliogabale a fait un autre choix. Donc, il ne faut pas considérer qu'en elle-même, cette conversion de Constantin était une révolution qui bouleversait tout l'Empire.
Attendez,
elle s'inscrit dans une série. Alors, ce qui lui donne son sens, c'est ce qui viendra après.
Disons un mot, professeur
Grandazzi.
Alexandre Grandazzi. Disons un mot de l'influence de Sainte Hélène, la mère de Constantin,
certainement très grande, une influence certainement très grande
sous le nom de Sainte Hélène.
Oui.
Alors racontez-nous un peu qui était Sainte Hélène.
Eh bien, Hélène est au départ une servante d'auberge qui devient la concubine, en raison de sa beauté et de son intelligence, elle devient la concubine de Constance Clore.
Qui avait ce nom de Clore, alors, parce qu'il avait mauvaise mine.
Oui, alors cela dit, si on regarde le détail des sources, des textes, aucun texte contemporain de Constance Clore ne lui donne le nom de Clore. C'est un surnom qu'on ne trouve que dans des textes bien plus tardifs. Mais on peut estimer que ces textes reproduisent tout de même une tradition contemporaine, et on peut estimer, avec une petite marge d'incertitude, qu'il avait vraiment ce surnom. C'est Constance le Pâle. Hein. Il avait un teint un peu pâle, un peu bilieux. Mais encore une fois, on n'est pas totalement sûr qu'il avait vraiment ce surnom. Mais de son vivant. En tout cas, il l'a eu pour la postérité. Et Constance Clore est un officier de très haut rang qui rencontre Hélène, peut-être dans son auberge. Ils se mettent ensemble, comme on dit aujourd'hui, et sans se marier. Et elle va lui donner un fils qui sera Constantin. Et après, Constance ira d'ailleurs il se mariera, mais pas avec elle. Mais Constantin gardera toujours vis-à-vis de sa mère une très grande admiration. Et,
ce qui veut dire que Constantin est un bâtard.
Bien sûr. Oui, mais il a vis-à-vis de sa mère une très grande affection, une très grande admiration.
Était-elle chrétienne depuis toujours, sa mère ?
C'est très probable. Ouais. C'est très probable, et on peut penser qu'elle a joué une grande influence dans l'itinéraire spirituel de Constantin.
Ouais. Bon, et elle a été canonisée. C'est Sainte-Hélène. Est-ce que...
Oui, elle a été enterrée à Rome et elle a joué un grand rôle puisque elle a terminé sa vie en faisant un pèlerinage en Terre Sainte et en tant qu'impératrice, enfin impératrice mère, et disposant à ce titre de sommes considérables. Et c'est grâce et c'est à elle qu'est due la construction du Saint-Sépulcre et grâce aux donations qu'elle a faites à ce moment-là.
Alors parlons un peu, Michel de Gégère, professeur Grandazzi, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, de la personne ou de la personnalité de Constantin. Personnage complexe donc, individualité contrastée, chrétien depuis longtemps peut-être, mais qui n'a pas eu une vie très chrétienne. J'ai noté quand même avec horreur qu'il a tué son fils, qu'il a tué son épouse légitime et qu'il a tué son beau-père. C'est quand même beaucoup pour un saint homme.
Mais personne ne dit que c'est un saint, enfin si les orthodoxes, mais tous les chrétiens ne sont pas des saints.
Ouais. Mais là quand même, écoutez, c'est son fils, son épouse et alors, son beau-père, c'est quand même beaucoup.
Je vais vous renvoyer à une anecdote, il y a quelques années, j'organisais une université d'été sur Clovis, et à l'occasion du 15e centenaire du baptême de la France, et nous avions une conférence de René Musso-Goulard, et qui défendait l'idée de la conversion sincère de Clovis au christianisme, etc. Et discutant avec elle, je lui ai dit « Oui, certainement, Clovis était certainement sincère, je comprends très bien votre thèse, mais tout de même, il y a un truc un petit peu gênant, c'est qu'après son baptême, il assassine quand même énormément de monde. » À quoi elle m'a répondu « Oui, mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on arrête de pécher. » Et je lui ai dit « Oui, mais enfin, vous et moi, nous faisons des péchés, mais nous ne tuons personne. » À quoi elle m'a répondu « Oui, mais c'est parce que nous ne sommes pas rois. » Et je pense que la même remarque peut être faite pour Constantin. C'est-à-dire que Constantin est un pécheur comme tous les chrétiens, mais c'est un pécheur qui a de grands moyens de pécher et de grandes occasions de pécher, parce que la politique, et surtout la politique dans l'Empire romain du début du IVe siècle, eh bien, est un domaine où la vie chrétienne est très difficile. Et d'ailleurs, parmi les thèses pour expliquer le baptême tardif, Robert Turcan, dans sa biographie de Constantin et son temps, retient celle-ci, c'est-à-dire qu'il lui pense, alors après tout ça est discuté entre historiens, lui pense que l'explication de ce baptême tardif de Constantin, c'est notamment, comme le disait le professeur Grandazzi, le fait que dans un empire païen, il avait pensé que c'était difficile pour l'empereur d'être chrétien, mais il y avait aussi qu'il pense que Constantin a estimé qu'il était impossible d'exercer le pouvoir de façon chrétienne dans l'Empire romain à l'époque où il était, et que donc il fallait qu'il attende, c'est pour ça que son livre s'appelle Le baptême ou la pourpre, qu'il fallait qu'il attende d'avoir déposé la pourpre pour accepter le baptême, parce que la morale chrétienne ne permettait pas l'exercice
Du
pouvoir.
Selon cette
c'est
hypothèse,
la thèse de Robert Turcan. Voilà.
Selon cette hypothèse, cher Michel de Gégère, en fait c'est parce que Constantin était effectivement plus exigeant en matière de morale chrétienne que les rois de France très chrétiens que nous avons connus pendant des siècles, qu'il n'a pas voulu être baptisé avant son agonie quasiment.
Enfin, ou alors il avait une conception insuffisante de la miséricorde divine, je ne sais pas. Alors,
les auditeurs de Radio Courtoisie ont compris que Michel de Gégère était un panégyriste de Constantin. Et moi, je voudrais simplement faire état de ce que j'ai appris en lisant le Figaro Histoire, le numéro de juin-juillet, et je veux bien lui pardonner d'avoir zigouillé ses rivaux ou ses ennemis. J'ai un peu plus de mal à être édifié par le fait qu'il a tué, je le répète, pour la dernière fois, son fils, son épouse et son beau-père.
Mais son fils, les circonstances.
Oui, son fils était peut-être en train de devenir un rival. Quant à son compétiteur Galère, ça faisait partie du jeu.
Qui était son beau-père,
voilà, Maximien. Oui, même s'il était son beau-frère, il fallait
Son père ou beau-frère ?
C'était son beau-père. Mais en fait, il se trouve que tout ça, ce sont des jeux d'alliance politique. C'est-à-dire qu'il avait épousé la fille de Maximien, qui était donc le collègue de Dioclétien. Enfin, tout ça, c'est la tétrarchie, c'est un tout petit peu compliqué à résumer. Or, il s'est passé deux choses. Il s'est passé d'une part que Maximien, qui était donc le père de Maxence, autre rival de Constantin, etc., a a voulu a d'abord trouver refuge, étant chassé par son fils Maxence, chassé de Rome, a trouvé refuge chez Constantin, et que pendant une campagne de Constantin aux frontières pour défendre les frontières de l'Empire contre les barbares, Maximien n'a rien trouvé de mieux que d'usurper le trône, de vouloir redevenir Auguste et de prendre la place de Constantin. Et Constantin a fait demi-tour de la frontière, descendu le Rhône en barque avec son armée, est arrivé devant Marseille où Maximien s'était retranché, s'est fait livrer Maximien et lui a donné la nuit pour se pendre. Bon, alors peut-être que du point de vue de la charité chrétienne, ça laisse à désirer, mais du point de vue politique, c'est compréhensible. Vous voyez, c'est pas, il a tué son beau-père dans un coup de colère parce qu'il n'était pas d'accord.
Bon, allez, nous donnons la bénédiction et l'absolution à Constantin.
Bon, et quant à sa femme et son fils, il se trouve que là, c'est une histoire qui est un peu shakespearienne, un petit peu obscure, dont on n'a pas tous les éléments, mais enfin, ce que l'on pense comme étant l'hypothèse la plus vraisemblable est que Fausta, donc fille de Maximien et épouse de Constantin, beaucoup plus jeune que Constantin et qui avait l'âge de son beau-fils, qui avait l'âge de Crispus,
a couché avec lui.
Alors, on ne sait pas. Peut-être ont-ils couché ensemble. Le plus probable est que Fausta, c'est toujours l'éternelle histoire de Phèdre, hein, le plus probable est que Fausta a accusé Crispus de lui avoir fait des avances, car Crispus donc était un fils d'un premier lit, et Fausta voulait probablement protéger les intérêts dynastiques de ses propres enfants, et donc voulait éliminer ce...
Donc Constantin avait bien raison.
Et là on voit bien d'ailleurs, c'est effectivement une hypothèse très probable, et on voit bien deux choses. On voit bien, il y a une raison de fond, effectivement Fausta veut mettre ses deux fils sur le trône. Et on voit bien une caractéristique du caractère, précisément, de Constantin, qui est l'impulsivité. Et cette accusation probable, il réagit en l'envoyant.
Michel Degener n'aurait pas mieux dit. Au fond, on ne peut rien reprocher à Constantin. Il avait la tête près du
bonnet. Mais on a un peu oublié.
Et son fils Crispus, qui s'appelle Crispus.
On a oublié une victime. C'est celle à laquelle je pensais. C'est Licinius, quand même, son beau-frère. C'est lui auquel je pensais. Il fait exécuter son beau-frère après lui avoir promis la vie sauve.
J'ai oublié de le dire.
Il l'envoie à Thessalonique en lui garantissant la vie sauve. Et quelques semaines plus tard, Licinius est assassiné dans le palais où il a été mis en résidence surveillé.
Donc, il est tout de même probable que d'un point de vue politique, ce soit une décision raisonnable.
Mais
on est dans une situation où depuis un siècle et plus, on vit dans les usurpations et les guerres civiles.
Mais je crois qu'on va même, si vous permettez, on va même au-delà d'un siècle, parce qu'il faut penser à ce qu'est un empereur romain. Un empereur romain, c'est quelqu'un qui est toujours, qui a toujours l'idée, la crainte de se voir remplacé par un rival, un usurpateur éventuel. Il n'y a pas l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire romain, c'est d'ailleurs une appellation moderne, parce que empereur au départ ça veut dire simplement général vainqueur, qui se trouve être à la tête de l'État. Il n'y a pas pendant longtemps il n'y a pas de règles dynastiques, et il y a toujours la possibilité de mettre quelqu'un d'autre à la place de l'empereur régnant. Le meilleur, quelqu'un peut toujours se trouver meilleur que celui qui est en place. Donc l'empereur romain, par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de la pérennité de son pouvoir et qui est sans arrêt aux aguets par rapport à des compétiteurs éventuels, fussent-ils dans sa propre famille. C'est vrai sous Auguste. Regardez l'histoire de la dynastie augustéenne. C'est une effrayante suite
de meurtres.
Et c'est encore vrai sous Constantin.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit Michel Degener, journaliste, écrivain, directeur des hors-séries du Figaro et du Figaro Histoire, et le professeur Alexandre Grandazzi, professeur à Paris 4.
Pour parler
de Constantin et la christianisation de l'Europe.
Alors, pour faire des comparaisons anachroniques, bien sûr, la règle de primogéniture de la dynastie capétienne a évité toutes ces horreurs. Bon, et donc il faut s'en féliciter pour la France. Et d'autre part, on peut évoquer aussi la tradition ottomane, où c'était pire que chez les Romains. C'est-à-dire que lorsqu'un empereur ottoman prenait ses fonctions, il commençait par égorger toute sa famille.
Oui, mais vous...
enfin, tous les hommes, pas les
vous
femmes.
Vous ne croyez pas si bien dire. C'est une comparaison faite par l'érudition ancienne dès le XVIIIe siècle entre l'empereur romain et le grand vizir. Et c'est une comparaison qu'aujourd'hui...
Pas le grand vizir, le padishah.
Et c'est une comparaison, c'est un type de comparaison qu'aujourd'hui Paul Venn a reprise. Effectivement, l'empereur romain est quelqu'un qui se sent toujours menacé potentiellement dans son pouvoir. Parce que pourquoi est-il là où il est ? Il est là parce qu'il est le meilleur, que les dieux l'ont choisi et qu'il est en accord avec le Sénat. Mais toutes ces conditions, un autre peut un jour les remplir.
Alors nous sommes au début du 4e siècle de notre ère, donc l'édit de Milan 313 après Jésus-Christ, qui est un édit de tolérance qui permet donc aux chrétiens de célébrer leur culte librement, et qui est en fait le début de la christianisation de l'Europe, en tout cas l'accélération de la christianisation de l'Europe. J'aimerais que, pour que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent bien les linéaments de cette histoire, que vous nous expliquiez ce que c'était que la tétrarchie, parce qu'on a employé plusieurs fois le mot sans l'avoir expliqué. Alors tétrarchie, ça veut dire le pouvoir de à quatre.
À
ça.
Quatre, oui. C'est, vous savez, la tétralogie de Wagner, il y a quatre opéras. Eh bien, la tétrarchie, il y a quatre dirigeants, quatre empereurs, dont deux ont un statut plus...
Deux Augustes et deux César.
Plus important que les deux autres. Il y a deux Augustes et deux César. Et Auguste est plus que César. Ça n'aurait pas fait plaisir à Jules, mais c'est comme ça. Et en réalité, on a l'impression d'un système bien huilé et qui est sorti comme cela de la réflexion de Dioclétien, mais il faut bien voir que c'est un système qui s'est progressivement mis en place d'une manière empirique et pour répondre à ces deux fléaux du 3e siècle de notre ère qu'avaient été, un, les invasions barbares, deux, justement, les tentatives d'usurpation.
Professeur Grandadi, permettez-moi d'expliquer une chose très simple qu'il faut comprendre. C'est que les communications de l'époque faisaient qu'il était très difficile depuis un lieu déterminé, que ce soit Rome ou ailleurs, de donner des ordres qui devaient être exécutés partout sur un ensemble aussi étendu que l'Empire romain, alors même qu'il fallait agir, que c'était la guerre partout, en tout cas c'était voilà. La guerre dans beaucoup d'endroits, et que quand c'est la guerre, il faut donner des ordres, il faut avoir la légitimité des données, et il ne faut pas que le pouvoir légitime...
Oui, c'est, j'allais en venir...
trop loin.
Donc, quand je parle des invasions barbares, c'est
donc
ce problème.
Donc en fait, c'est un peu un découpage en zone militaire, à la tête de chaque zone militaire, il y avait soit un César, soit un Auguste, qui avait toute légitimité pour donner des ordres, être obéi par ses troupes,
exactement.
Et donc pouvoir combattre les barbares.
Mais ce n'est pas la division de l'Empire. Mais ce n'est pas la division de l'Empire. La tétrarchie, c'est même la négation de la division.
C'est une organisation.
C'est une organisation, voilà.
Voilà.
Mais qui a conduit à beaucoup de problèmes.
Et puisque nous en étions dans les comparaisons, j'ai quand même oublié de préciser que cette pratique consistant à tuer ses rivaux, c'est quand même, heureusement passé de mode, puisque Chirac et Balladur ne se sont pas entretués en 1995, et Sarkozy et Villepin, plus récemment, ne se sont pas entretués, ils se sont contentés de dire du mal les uns des autres. Bien que Sarkozy ait dit qu'il fallait pendre Villepin à croc-de-boucher, il ne l'a pas fait, c'était une formule. Bien, à l'époque, les mœurs étaient quand même très cruelles. Je sais que vous êtes un admirateur de Rome, mais est-ce que Rome n'était pas barbare, justement ? Professeur Grandotti.
Rome, oui. Voyez-vous, cette question me laisse pantois. Non.
C'est pour ça que vous d'ailleurs.
Oui, Rome se pensait en opposition avec le monde barbare. La civilisation romaine, Rome, c'est la civilisation. Et la civilisation, c'est d'abord le fait de vivre en ville, d'avoir toutes les commodités qu'apporte l'urbanisation, les thermes, l'eau courante, à quelques centaines de mètres de votre domicile, vous vous rendez compte ce que ça peut être à cette époque, les distractions, le cirque Maxime ou autres distractions, les aides alimentaires qui peuvent être distribuées par le pouvoir, pain, huile, aux citoyens romains qui peuvent prouver qu'ils ont cette qualité. Donc Rome se pense comme la civilisation par rapport aux barbares. Les barbares, c'est quoi ? C'est des gens qui vivent, qui ne sont pas nécessairement fixés sur une terre, qui se déplacent, qui sont nomades, qui vivent dans des huttes et non pas dans des villes. Et cette opposition, qui parle des langues qu'on ne comprend pas, des langues autres que le latin et le grec, puisque le grec a égale dignité par rapport au latin, et Rome se pense en opposition, même la Rome, même l'Empire romain de cette époque effectivement dure et cruelle, et se pense en opposition totale avec le monde barbare, opposition d'autant plus totale que dans la réalité les barbares sont partout, ils sont dans l'armée, ils sont dans l'appareil administratif, l'appareil d'État, et mais ils sont là parce que précisément ils désirent, enfin ils souhaitent bénéficier de cette civilisation par excellence qui est portée par Rome. Et nous sommes à une époque où précisément le monde romain est face à la question barbare, mais les barbares ne veulent qu'une chose, c'est devenir romains.
Alors, parlons de ce qui a précédé l'édit de tolérance de Milan en 313 après Jésus-Christ, qui sont les persécutions. Il faut dire quand même un mot pour comprendre la nouveauté de cet édit.
Oui.
Des terribles persécutions qui ont eu lieu notamment au IIIe siècle sous Dioclétien. Alors qui veut parler des persécutions? Michel de Gégère.
Enfin, les persécutions, elles ont commencé bien avant. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux vagues. C'est-à-dire que le christianisme à partir de Néron, c'est-à-dire les années 60 après Jésus-Christ, est une religion illicite. Simplement, bon, il y a la persécution de Néron qui est bien connue, à l'occasion de l'incendie de Rome, mais simplement ce qui se passe jusqu'au IIIe siècle, eh bien, c'est que ces persécutions sont sporadiques, c'est-à-dire que, encore une fois, la religion étant destinée à protéger la cité des malheurs publics, lorsqu'il y a des malheurs, lorsqu'il y a des épidémies, lorsqu'il y a des tremblements de terre, eh bien, souvent à l'initiative de la population qui voit que qui désigne les chrétiens comme responsables, parce que comme ils ne rendent pas de culte aux dieux, eh bien, on estime que c'est de leur faute si des malheurs sont arrivés. Il y a une vague de persécution qui se déclenche. Le christianisme, ce sont des petits groupes peu affichés, etc. Et à ce moment-là, eh bien, ils sont les boucs émissaires de la situation. Et il y a des persécutions qui sont locales, violentes, mais souvent assez limitées dans le temps et dans l'espace. Ce qui change au IIIe siècle, c'est que dans le contexte de crise et de chaos, qui est celui de toute une partie du siècle, avec la multiplication des invasions, la multiplication des usurpations, quelquefois l'éclatement de l'Empire, etc., les malheurs deviennent permanents. Et un certain nombre d'empereurs essaient de redresser la situation, et un certain nombre d'entre eux pensent que ce redressement de la situation passe par la restauration de la religion traditionnelle, pour les raisons que j'ai dit. Et donc, c'est l'empereur Dèce, en 250, je crois, qui est à l'initiative de la première persécution générale, c'est-à-dire que l'empereur Dèce demande que tous les citoyens romains viennent sacrifier aux dieux de l'Empire. Or, depuis l'édit de Caracalla, un petit peu plus de 50 ans avant, tous les habitants de l'Empire sont citoyens romains, donc les chrétiens sont appelés à venir sacrifier aux dieux. Ce qui leur est impossible du fait de l'exclusivisme du dieu chrétien, qui veut être seul à être honoré, les chrétiens considèrent à l'époque les divinités du polythéisme comme des réalités, mais comme des démons, et donc il n'est pas question pour eux de sacrifier à ces démons, ni d'ailleurs de commettre des sacrifices sanglants, le sacrifice sanglant leur faisant horreur. Eh bien, la déesse, on demandait simplement de brûler quelques grains d'encens devant la statue de l'empereur pour rendre un culte non pas à l'empereur lui-même, mais au génie de l'empereur qui est considéré comme divin et qui est considéré comme le garant de l'unité de l'empire et de la prospérité publique. Comme il refuse ça, eh bien, il y a une première persécution générale. Cette persécution ne dure pas parce que l'empereur Dèce est tué sur le champ de bataille que dans les difficultés des règnes suivants.
Dèce.
Decius. Voilà. Et puis la persécution s'arrête assez vite. Puis il y a un autre empereur, Valérien, qui repart sur le principe d'une persécution générale en demandant aussi un sacrifice à tous les habitants de l'Empire. Mais lui est fait prisonnier par les Perses. Son fils met fin à la persécution, ce qui fait que pendant une trentaine, une quarantaine d'années, il y a ce qu'on appelle la petite paix de l'Église, où sans que le christianisme soit officiellement une religion licite, comme il le devient avec l'édit de Milan, eh bien, en gros, on fiche la paix aux chrétiens. On ne les poursuit pas. Il n'y a pas de poursuite contre eux. Et puis vient Dioclétien, cette restauration tétrarchique, l'institution de la tétrarchie, les Augustes, les Césars, et Dioclétien donne un fondement religieux à la tétrarchie, c'est-à-dire que les deux Augustes, un Auguste est censé être, non pas le descendant, mais l'incarné, je ne voudrais pas dire... le protégé de Jupiter, et l'autre le protégé d'Hercule. Donc il y a un fondement théologique, si vous voulez, au pouvoir qui est institué, parce que, comme le disait le professeur Grandazzi, le problème de l'Empire romain a quand même été longtemps un problème institutionnel. On ne sait pas bien quel est le fondement théorique du pouvoir, si ce n'est la force militaire. Donc Dioclétien essaye de donner un fondement théologique à ce pouvoir en faisant des deux empereurs les protéger, l'une d'une dynastie jovienne, qui est la dynastie, c'est l'empereur qui est qui est le premier Auguste, qui est protégé par Jupiter, et puis le deuxième Auguste, qui sera Maximien, le fameux beau-père de Constantin, qui lui est censé être protégé par Hercule, et puis les Césars de ces Augustes sont eux-mêmes protégés chacun par la divinité de leur Auguste. Et donc, dans ce cadre, il reprend une persécution générale. C'est, je crois, en 303. Il y a une série d'édits où on commence par confisquer les biens d'église, demander on brûle des églises, etc. Et puis finalement, on demande à tout le monde de sacrifier au dieu de l'Empire sous peine d'exil ou de mort. Et là, pendant jusqu'en 311, c'est le fameux édit de Galère dont nous parlions au début, il y a une persécution, alors qui est générale, elle est générale dans son principe. Après, elle est appliquée de façon inégale dans toutes les parties de l'Empire. Je disais tout à l'heure que dans le secteur de Constance Chlore, le père de Constantin, eh bien, en fait, on pense que la persécution, les édits de persécution n'ont pas été véritablement appliqués, que Constance Chlore s'est contentée de détruire quelques églises pour donner le change vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, de son supérieur hiérarchique. En revanche, en Orient, dans la zone territoriale...
Son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire
Constance Chlore, c'était Maximien.
Maximien.
Il était de la lignée herculéenne. Mais donc dans le ressort de Dioclétien et de Galère, donc en Orient, la persécution va être extrêmement brutale et on en a des récits tout à fait effrayants dans Eusèbe de Césarée. Qui donnent des récits alors de villages brûlés, de gens qui sont amputés, de gens qui sont empalés, des supplices, des tortures de toutes sortes qui frappent.
On dirait un génocide aujourd'hui.
Les chrétiens. Alors bon, il y a toujours discussion sur le nombre des victimes parce que. Encore une fois, le christianisme, ce sont des petites communautés, donc on ne sait pas dans quelle mesure, ça a été surtout les chefs de communautés qui ont été frappés. Il y a des endroits où il y a eu des villages brûlés, ça, on le sait. Oui. Après, la question du nombre des martyrs est une question de controverse. Il y a eu, au XVIIIe siècle, un Écossais qui a fait une dissertation savante sur le petit nombre des martyrs et c'est devenu un des thèmes des Lumières de dire que finalement la persécution n'avait pas touché grand monde. Je pense que quand même il y a eu une volonté de minorer le nombre des victimes, même s'il est possible que dans le récit de Zeb, il y ait eu de son côté une volonté de majorer le nombre des victimes.
Alors professeur Grandazzi, je me retourne vers vous pour cette question des persécutions. D'abord, revenez sur la question de la persécution. Pourquoi a-t-on persécuté les chrétiens? Car après tout, on ne sait pas assez, mais il y avait dans l'Empire romain des juifs non chrétiens, des adeptes du judaïsme pharisaïque qui est ensuite devenu le judaïsme talmudique. Bon, cela ne rendait pas plus hommage aux dieux des païens. Pourquoi n'ont-ils pas, eux, été persécutés?
Alors, c'est une très bonne question. Je crois que pour comprendre ce phénomène qui nous effraie et qui en même temps semble être la marque de cette période, que sont les persécutions contre les chrétiens, il faut se tourner vers réfléchir un tout petit peu sur ce qu'est l'ancienne religion romaine. Et on peut voir que la notion essentielle de cette religion, qui est une religion ritualiste, sans dogme, sans livre sacré, avec très peu de prêtres, et une liaison intime, organique, essentielle entre justement le personnel sacerdotal et le personnel politique, parce qu'être prêtre dans la religion païenne, ça n'interdit pas d'être homme politique, ce sont souvent les mêmes, et on oublie par exemple,
cardinal de Richelieu,
on oublie par exemple que le César qui conquiert la Gaule, il se trouve être en même temps le grand pontife de Rome, voyez. Donc dans ce système religieux qui est polythéiste, qui est ritualiste, qui est, je dirais, étatique et en tout cas communautaire, et toujours à visée éminemment terrestre, c'est toujours Rome, la prospérité de Rome qui est en jeu. Dans ce système, le concept essentiel, c'est ce que les Romains appellent la paix pax deum, génitif archaïque pax deorum, si vous voulez, la paix des dieux. Non pas que les dieux, ça ne veut pas dire que les dieux doivent laisser les mortels en paix, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être en paix les uns avec les autres, parce qu'on sait qu'entre eux, ils ont parfois des petites querelles, mais cette notion de pax deorum, on pourrait la traduire en disant que c'est la bienveillance que les dieux, qu'on espère des dieux, que les dieux manifesteront vis-à-vis de Rome. Rome étant de toute façon à elle seule l'hypostase de toute communauté terrestre. Et la paix des dieux, c'est l'objectif de tout ce système ritualiste et polythéiste, qui conçoit les dieux comme des espèces de super magistrats, si je fais allusion à l'ordonnance politique de cette cité antique, comme des super patrons, patrons non pas au sens affaires d'aujourd'hui, mais au sens du couple patron-client qui structure véritablement la vie sociale antique. Et ces dieux, ils sont nombreux. Ils sont non pas tout-puissants, parce qu'aucun dieu dans ce polythéisme n'est considéré comme tout-puissant à lui tout seul. Même Jupiter a besoin de... s'il veut qu'une armée remporte la victoire, ben Jupiter, il a besoin de la déesse Victoire, qui lui est subordonnée, mais dont il a tout de même besoin. Donc ce système polythéiste, ritualiste, orienté vers le fonctionnement de l'État romain, est un système où les dieux sont respecté, mais toujours craint, et on craint notamment toujours qu'ils se détournent de Rome, qu'ils cessent de la favoriser comme ils l'ont fait pendant tant de siècles. Et on voit même chez Tite-Live, au beau temps de la République romaine, l'État romain, c'est-à-dire la classe dirigeante romaine, se préoccupe que soit maintenue toujours cette bienveillance des dieux, cette pax deorum. Et songeons que cette religion romaine, je dirais traditionnelle, elle ne concerne que très peu de gens. On peut évaluer sous Auguste à quelques centaines le nombre de prêtres qui font fonctionner la religion romaine. Quelques centaines pour tout le monde romain. Et quelques milliers si on veut être large dans les estimations chiffrées. Et n'oublions pas que les cérémonies religieuses célébrées par l'empereur dans le système traditionnel, célébrées par les prêtres qui l'entourent, des prêtres qui sont par ailleurs des hommes politiques en action. N'oublions pas que ces cérémonies politiques, elles sont célébrées au nom du peuple romain, mais que le peuple romain, il peut vaquer à ses occupations par ailleurs sans y assister. Ça n'a aucune importance. Il faut imaginer que la vie de ces cités antiques, de Rome en particulier, il y a des sacrifices là, devant tel temple, dans telle place. Des bœufs sont sacrifiés, l'empereur est entouré des licteurs, de ses collègues, des consuls. Et puis la foule ailleurs vaque à ses occupations. Cette religion romaine traditionnelle n'a pas du tout l'équivalent de ce qui est la messe. Une cérémonie où tout le monde se retrouve en l'honneur des dieux, dans la Rome antique païenne, je dirais, je ne vois que précisément les jeux sacrés qu'on célèbre au grand cirque, qui sont faits pour distraire les dieux et puis par là même distraire aussi les Romains. Donc dans ce système religieux, il est essentiel que de maintenir, je dirais, la connexion, si je puis employer ce mot, entre ces puissances divines pour lesquels on a toujours, vous voyez, un peu de crainte, et la cité romaine. Et ce qui se passe au IIIe siècle, c'est comme Michel de Geiger l'a dit, c'est que toutes ces invasions, ces troubles, des choses jamais vues auparavant dans l'histoire de l'Empire, montrent que dans cette mentalité si particulière des Romains païens, montrent que les dieux se détournent de Rome. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quels vont être, évidemment, les premiers visés? Ce sera ceux qui, précisément, lorsqu'on leur demande ce qui pour tous les autres, est une simple formalité, aller devant une statue de l'empereur ou brûle, avec un autel où brûle le feu et répandre quelques grains d'encens en prononçant trois mots, tout le monde le fait sauf eux. Donc ils ne sont pas pour les dieux de Rome, et donc ils risquent de mettre tout l'édifice de l'Empire romain par terre. Et c'est ce qui va expliquer, expliquer ne veut pas dire justifier, hein, vous l'avez bien compris, c'est ce qui va expliquer ces persécutions. Et quant au fait que les juifs en sont exempts, il n'y a pas de persécution juive, je veux dire anti-juive dans l'Empire romain qui a quand même en 70 pris d'assaut Jérusalem, changé le nom de Jérusalem et transformé le grand temple en temple de Jupiter. Mais c'est que les juifs ne sont pas inquiétants pour les romains parce que pour eux c'est une religion ethnique. Ce sont des étrangers, c'est une superstitio externa. C'est-à-dire que c'est une religion que l'on pratique lorsqu'on est juif. De père en fils, ou plutôt de mère en fils. Et ça les regarde, c'est admis. Vous savez que la plus ancienne synagogue est sans doute celle d'Ostie, avant notre ère. Les Romains l'admettent. Dans la mesure où les Juifs ne se caractériseront pas par ce prosélytisme qui, à partir de saint Paul, va caractériser le christianisme. Et puis, ils ont des conditions d'entrée, si je puis dire, notamment la circoncision, qui fait absolument horreur aux Romains. Sont restrictives.
C'est d'ailleurs pour cela que saint Paul a abandonné la circoncision et a dit qu'on pouvait l'abandonner.
Alors, cela dit, les choses sont plus compliquées parce qu'on voit bien qu'avant les grandes persécutions antichrétiennes, on voit bien que le judaïsme conquiert des fidèles, notamment dans la haute aristocratie romaine. Et ce qui va arrêter l'expansion externe, si j'ose dire, du judaïsme, cela va être précisément le christianisme, qui va faire que, a contrario, parce que les choses marchent toujours par effet et contre-effet en histoire, a contrario, le judaïsme va lui se prévaloir de sa fidélité à son passé et à ses traditions. Hein? Donc on ne peut pas penser le christianisme, qui au départ n'est aux yeux des Romains qu'une secte un peu particulière du judaïsme, on ne peut pas penser le
pas
christianisme en dehors du judaïsme, et on ne peut pas penser non plus le développement du judaïsme sous l'Empire en dehors du christianisme.
Mais historiquement c'est bien ça, le christianisme c'est un judaïsme apostolique et évangélique.
Bien sûr, mais pendant les premiers siècles de son existence, les Romains ont certainement considéré le christianisme comme une secte un peu bizarre parmi les différentes sectes juives qui étaient qu'ils voyaient à Rome même.
Michel de Geiger pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Mais comme le souligne le professeur Grandazis, ce qui fait donc la différence avec le christianisme, c'est que le judaïsme n'étant pas prosélyte ou beaucoup moins prosélyte, le christianisme l'étant, les chrétiens sont des renégats, sont des gens qui n'ont pas hérité leur dieu de leurs ancêtres, mais qui ont hérité les dieux du polythéisme et qui se sont détournés de ces dieux pour rendre un culte au dieu unique. Et donc, c'est ça qui est considéré comme ayant suscité la colère des dieux.
Alors, il est temps d'en arriver, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, à la grande interrogation historique dont débattent les historiens sur le rôle de Constantin. Est-ce que Constantin a été là parce que l'Empire romain était de toute façon en train de se christianiser et qu'il n'a fait que donner son nom à un processus qui était inéluctable? Ou bien est-ce que, au contraire, le hasard en histoire, ou si vous préférez la Providence, ont joué un rôle considérable? Est-ce que finalement nous sommes devenus chrétiens parce que il y a une succession de circonstances extraordinaires, de hasard ou d'action de la Providence, la victoire de Constantin au Pont Milvius, par exemple, le fait que Constantin s'est converti, et le fait qu'il a choisi le christianisme qui pourtant était très minoritaire. Vous avez dit, Michel de Geiger, professeur Grandazis, qu'il touchait à l'époque 10% de la population de l'Empire. Donc, est-ce que ce sont des hasards successifs qui ont expliqué cet événement extraordinaire? Que disent aujourd'hui les historiens de la causalité qui était en cours à l'époque, dans cette christianisation de l'Europe qui vraiment prend son essor avec Constantin et ses fameux édits de Milan de 313 après Jésus-Christ?
Alors, c'est le débat qui a été lancé en 2007 par Paul Venn avec la parution de son livre « Quand notre monde est devenu chrétien ». Parce que Paul Venn, il défendait de façon très brillante, dans un livre qui est très agréable à lire, qui est très enlevé, il défendait l'idée que Constantin était un fondateur, qu'il voulait refonder l'Empire sur des bases entièrement nouvelles, et qu'à ce fondateur, à cet Empire nouveau, il fallait une religion nouvelle, et que Constantin avait regardé autour de lui et avait considéré le christianisme, petite secte tout à fait minoritaire, tout à fait ignorée, comme un chef-d'œuvre. Pourquoi un chef-d'œuvre ? Eh bien, parce qu'il il instaurait une relation aimante entre la créature et son créateur, ce que le polythéisme avait été incapable de faire, puisque les relations, comme le disait le professeur Grandazzi, les relations entre les hommes et les dieux dans la logique du polythéisme sont quand même une relation de crainte et de...
Excusez-moi, même dans la logique du judaïsme de l'Ancien Testament, du judaïsme sacerdotal de l'Ancien Testament...
C'est pas le sujet.
C'est pareil. Si, c'est le sujet, parce qu'il existe aussi à l'époque.
Oui, mais enfin,
c'était aussi une relation de crainte et guerre d'amour.
Et donc, Constantin, découvrant cette petite secte et pressentant le génie du christianisme, au fond, avait choisi dans un espèce de magnifique pari de choisir cette secte d'avant-garde, cette religion extrêmement originale qui allait lui permettre de refonder l'Empire sur des bases nouvelles. Et grâce à ce coup de dé, raconte Paul Venn, eh bien, l'Église, autre chef-d'œuvre, dit-il, avec sa hiérarchie, avec son canon des Écritures, avec ses œuvres de charité, eh bien, avec le soutien de Constantin, avait répandu de façon brutale, pas au sens de brutalité, mais de façon rapide et extrêmement foudroyante, le christianisme dans tout le monde romain, dans tout le pourtour du bassin méditerranéen. Alors, bon, c'est un livre qui mérite d'être lu. Là, je le résume vraiment de façon presque caricaturale pour que les auditeurs comprennent les éléments du débat, mais qui est un livre extrêmement éclairant et sympathique, parce que il est loin de présenter, si vous voulez, l'avènement du christianisme comme l'avènement d'un âge d'obscurantisme qui aurait obscurci les lumières du paganisme, comme on le lit parfois.
Ça, c'est encore un autre sujet.
C'est un autre sujet. Mais ce livre a été contesté, et notamment contesté par Marie-Françoise Basselès, qui a écrit une réponse, si l'on veut, à Paul Venn, qui s'appelle « Comment notre monde est devenu chrétien ?» répondant à « Quand notre
c'est
monde est devenu chrétien ?»
C'est l'article de Figaro Histoire.
Non, mais elle a écrit un livre, d'abord, qui s'appelle « Comment notre monde est devenu chrétien ?» dans lequel, au fond, elle répond à Paul Venn en disant qu'il fait peut-être exagérément l'impasse sur tout ce qui s'est produit avant Constantin, c'est-à-dire que avant Constantin, l'Église, le christianisme, s'était tout de même répandu déjà autour du bassin méditerranéen sous forme de petites communautés, que l'organisation autour des évêques, les relations entre évêques, les lettres qui avaient permis aux différentes églises de communiquer, d'arriver à se mettre d'accord sur les canons de la foi, sur le canon des Écritures, etc., avaient déjà préparé le terreau de la christianisation du monde romain, que Constantin en avait été indiscutablement un accélérateur, parce que le fait d'avoir la liberté, notamment la liberté de se réunir en concile, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais Constantin a favorisé la tenue de concile en aidant notamment en mettant le cursus publicus, la poste publique à disposition des évêques pour se réunir, en favorisant ces réunions qui ont permis la définition notamment du credo de Nicée, au concile de Nicée, etc.
Constantin a organisé le premier concile écuménique. œcuménique, voilà. Le concile de Nicée en 325, me semble-t-il.
Voilà. Je finis simplement la thèse de Marie-Françoise Balèze, c'est-à-dire donc Constantin a été indiscutablement un accélérateur, mais c'est un accélérateur qui est arrivé sur un terreau qui avait déjà été beaucoup plus préparé que Paul Veyne ne le laisse entendre dans son livre. Et ensuite, Marie-Françoise Balèze insiste sur le fait que la christianisation du monde romain au IVe siècle, siècle de Constantin, a été certainement foudroyante, mais aussi un peu superficielle, notamment en Occident, qu'avant que le christianisme pénètre véritablement les mœurs, il a fallu des siècles. Bien et sûr. Que donc, l'idée de dire que le moment Constantin est le moment où le monde est devenu chrétien est une idée, un raccourci probablement excessif.
Alors,
les thèses en présence.
Professeur Alexandre Grandazzi, vous avez entendu le résumé de la problématique qui vient d'être effectuée par Michel de Jaeger. La christianisation de l'Europe est-elle un coup de dé, c'est l'expression que vous avez employée, Michel de Jaeger, un hasard, ou bien était-elle une fatalité, était-elle déterminée par l'évolution générale de l'Empire romain? Quel est votre, comment tranchez-vous ce débat, si vous voulez le trancher?
Quelle est
votre position?
Je crois que Michel de Jaeger a très bien résumé l'évolution de la controverse. Hein, on peut dire que c'est une controverse qui se poursuit. Et je crois que à la racine de tout cela, il y a une grande question qui est le rôle que peut avoir une personnalité, en l'occurrence Constantin, dans le déroulement historique. Donc ce n'est pas une petite question. Est-ce qu'effectivement, un homme, un seul homme, peut à ce point modifier les choses? Vous savez que depuis dans le dernier tiers du XXe siècle, ce genre de questions et de problématiques étaient considérées comme complètement inopportunes et inadéquates. Le développement de l'histoire, c'était les structures économiques, c'était les forces sociales, et en aucun cas, ça ne pouvait être l'action d'un seul individu. Mais aujourd'hui, les choses ayant un petit peu changé, il est significatif que cette problématique puisse revenir au premier plan du débat scientifique.
Alors vous, confessez-vous?
Non.
À l'antenne de Radio-Canada.
Je dirais que je suis lorsque j'ai lu avec passion le livre de si brillant de Paul Veyne, j'étais un petit peu surpris, je dois dire, de lui voir rejoindre ce qui est finalement un point de vue très classique, qui est le providentialisme des historiens du christianisme qui, au XVIIe, au XVIIIe siècle, disaient, eh bien, Dieu a voulu que
la
Constantin...
La providence a voulu la victoire du premier Dieu.
Voilà, Constantin comme instrument de la providence, voilà. Et comme instrument d'une christianisation qui, sans lui et sans la providence, n'aurait pas eu lieu. Et c'est un peu amusant de voir un historien aussi moderne et aussi...
N'est-il pas un peu marxiste sur les bords, Veyne?
Sans doute, mais c'est un très bon historien. C'est un peu amusant de le voir rejoindre... cette espèce de providentialisme un peu naïf qui caractérise l'ancienne érudition. Alors, bien sûr, on lui a répondu que un homme ne pouvait pas tout faire, fût-il l'empereur, et qu'il y a des causes profondes. Et ce serait aussi ma réponse. Je crois que Constantin a joué un rôle, mais que la crise... Si vous me poussez dans mes retranchements, alors, je vois que c'est votre intention. L'Empire serait de toute façon devenu chrétien pour les raisons suivantes. Il y a trois raisons qui expliquent la relativement rapide christianisation de l'Empire. C'est les routes, les fameuses routes romaines. On se déplace facilement dans cet empire. C'est l'unité politique. C'est l'Empire romain. Même avec la tétrarchie, c'est l'Empire romain unique. Je ne veux pas dire indivisible, parce qu'il commence un peu à se diviser, mais enfin, unique encore. Et c'est l'unité linguistique. Unité, il faudrait dire dualité, en réalité. Hein. Mais il y a deux langues, et deux langues seulement, de civilisation dans cet immense empire. Le latin et le grec. Le grec et le latin. Tout le monde se comprend d'un bout à l'autre de l'Empire. Et tout le monde se déplace. On voit les inscriptions funéraires des soldats de cette armée romaine nous montrent des soldats qui servent d'abord en Germanie, le long du Rhin ou du Danube. Ensuite, on les envoie en Angleterre, enfin, ce qui est pour nous l'Angleterre aujourd'hui. Et ensuite, ils filent dans ce qui est l'Irak aujourd'hui.
Malheureusement,
c'est ça l'Empire romain.
Leur cours, alors, si je résume votre pensée, au fond, vous nous dites qu'il y avait, pour des raisons en partie matérielles ou sociales, une tendance à l'unification. et que cette unification devait aussi être une unification religieuse, et que, là je vous ne l'avais pas dit, mais je vous interprète, que le christianisme étant sur le marché des religions la meilleure religion, il devait l'emporter sur les autres.
La meilleure, je ne sais pas, mais la plus accessible. Regardez Mitra, seulement accessible aux hommes. Il faut tuer un taureau, avoir le sang qui vous tombe dessus pour être initié. Regardez Isis, il faut...
Je voudrais ajouter deux choses, et parce que nous arrivons au terme de cette discussion sur... Constantin et la christianisation de l'Europe. La première, c'est que moi, je crois beaucoup au hasard, non seulement en histoire, mais dans le monde matériel en général. Et l'histoire, après tout, c'est l'histoire des hommes qui fait partie du monde matériel. Vous savez, aujourd'hui, une théorie à la mode, mais qui est un peu plus qu'une théorie à la mode, qui est fondée mathématiquement, c'est la théorie du chaos. Et la théorie du chaos est bien connue par cette formule qu'on appelle l'effet papillon. Le battement des ailes d'un papillon au Brésil peut déclencher...
Constantin, c'est plus qu'un papillon.
Une tempête au Texas.
C'est un gros papillon.
Ce qui veut dire... Non mais, d'accord, mais la bataille du pont Milvius, c'est peut-être les battements d'ailes du papillon. Pour expliquer l'action de hasard en histoire, il y a l'anecdote plus ou moins imaginaire du chat qui traverse la forge et qui distrait le forgeron. Et le forgeron est en train de planter des clous dans le sabot dans le fer. Il est en train de ferrer le cheval. Et comme il est distrait, il se trompe. Enfin, il tape mal son clou. Et donc le résultat, c'est que le cheval est mal ferré. Du coup, pendant la bataille, le fer du cheval se détache, le cheval tombe, le roi se tue ou l'empereur se tue. Et à cause de cela, l'armée de l'empereur se débande. Et l'empereur perd la bataille, et l'empire est perdu. Bien.
Et je suis pas en contradiction avec vous, mais je dirais que de ce point de vue, si vous voulez vraiment que la christianisation de l'empire soit due à une décision individuelle, je dirais qu'elle est plus due au fait que le successeur de Julien, l'apostat, soit un chrétien, Valens, qui décide de s'affirmer comme tel, plutôt qu'un autre.
Et n'oubliez pas ce que bien avant nous a dit le grand Blaise Pascal. Vous parliez d'axiome tout à l'heure. Axiome, c'est donc peut-être là que s'est joué l'avenir de l'Europe. Et Pascal a dit dans les pensées, le nez de Cléopâtre, s'il était plus court, la face du monde
en eût été changée. Oui.
Et donc, voilà, et ça n'est pas du providentialisme naïf.
Pascal était tout sauf naïf.
Voilà, tout sauf naïf, bien. Donc je crois qu'il faut accepter l'idée, l'hypothèse que... Et, il faut savoir que les historiens, surtout s'ils sont d'influence parkiste, ont tendance, comme le déroulement des faits a été unique, à interpréter les choses d'une manière tendancieuse. Enfin, d'une manière comme déterministe. Je voudrais simplement signaler le débat sur les effets de la christianisation de l'Europe. Alors, il y a le fameux livre de Gibbon qui explique que la décadence de l'Empire est due au christianisme. Et puis, en sens inverse, il y a des livres plus récents. Celui de Rodney Stark, Le triomphe de la raison... édité par les Presses de la Renaissance, et le livre de Jean-Louis Harwell, Le vrai génie du christianisme, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Professeur Grandazzi, Michel de Gégère, Joël et Franck, je vous remercie.